إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على صفوة الخلق المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وسن سنته وارتضى بهديه إلى يوم الدين. واشمن اللهم معهم بعفوك وغفرانك يا أرحم الراحمين يا أجود الجودين يا رب العالمين. Donc je vous remercie de votre présence et je prie le Seigneur qu'il nous facilite et qu'il ouvre nos cœurs et nos esprits à la compréhension de sa loi et qu'il fasse que nous soyons unis entre nous et qu'il nous guide par son amour et sa bienveillance envers nous. Allahumma amin. Donc le premier, la nouvelle session que nous venons d'ouvrir va nous permettre de continuer. L'année dernière c'était un peu difficile, c'était des grandes théories de la compréhension des principes. Mais cette année, on va rentrer dans des choses beaucoup plus simples et on va prendre petit détail par petit détail. La première des choses dans la compréhension de tout, vous savez que pour communiquer, on a besoin de symboles. On ne peut pas en parler entre nous, quelle que soit la civilisation, quelle que soit la culture, quelle que soit la personne, si on n'utilise pas des symboles qui sont communs. C'est-à-dire que si je dis un mot que vous ne comprenez pas, même s'il renferme des sens très profonds et des choses très importantes, trucs, ça ne vous sert à rien, vous ne les comprenez pas. Et la première des symboles que nous utilisons pour communiquer, évidemment, c'est le langage. La langue, c'est ce qui véhicule notre pensée. Est-ce qu'elle la concrétise, c'est-à-dire elle lui donne vraiment une forme réelle, ou elle est qu'une forme approximative? C'est une grande discussion de linguistes et de philosophes, mais ça, on est tous d'accord sur le principe que la langue véhicule notre pensée et qu'elle nous construit à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous parlons de Dieu ou d'amitié ou d'amour ou de vin ou de manger ou des trucs comme ça, nous l'exprimons par des mots. Quand je dis une phrase, vous entendez tous la même chose, mais je pense que votre visualisation de ce que je suis en train de dire est différente selon chaque individu. Pourquoi je parle de ça? Parce que la religion est un concept. C'est-à-dire que c'est un concept auquel on a mis des mots. Et c'est ces mots-là qui sont importants. Et qu'on n'a pas d'autre capacité d'entreprendre la religion qu'à travers ces mots-là. Donc, souvent, la mauvaise compréhension de la religion, le rejet ou l'acceptation ou la déformation, pour aller dans un extrême ou dans un autre, réside dans le fait de la compréhension de ces mots-là. Et c'est les mots, c'est pas le concept lui-même. Pour vous donner un exemple, c'est-à-dire qu'un couteau, est-ce qu'un couteau, il est bon par essence ou il est mauvais par essence? Non, le couteau c'est une chose inerte qui ne peut pas. Vous pouvez utiliser un couteau pour éplucher une pomme pour la donner à un enfant, et vous utilisez le même couteau pour égorger cet enfant-là. Le couteau, lui, ne peut pas être condamnable. C'est l'utilisation qu'on va en faire du couteau qui va le rendre quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais. D'accord? Donc, la définition donnée, le sens du mot couteau, ou alors, pour être plus exact, faire en sorte que le couteau n'ait qu'une seule utilité. Imaginez par exemple que vous voulez que votre couteau empêche qu'il soit utilisé pour tuer un enfant. Il y a des procédés, vous réduisez la lame vous la rendez très courte, ce qui fait que la pénétration dans la chair ne peut pas provoquer des... Mais il y a des solutions. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a des solutions. Ben, les mots, c'est pareil. Les concepts philosophiques, c'est pareil. Si vous les comprenez, si vous leur donnez un cadre qui sont définis, qu'on est tous d'accord sur ce cadre-là, vous réduisez leur portée. Quand quelqu'un veut les utiliser en dehors de ces portées-là, ben, il se met hors jeu tout seul. En fait, vous n'avez plus besoin de le combattre, cette personne-là. Parce que c'est comme si quelqu'un dit un mot, imaginez un gros mot, un gros 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 mot dans une salle où tous les gens disent non, c'est les gros mots ici n'ont pas lieu d'être. On les connaît, mais on n'a pas lieu d'être. Dès qu'il va le prononcer, tout le monde va se retourner contre lui. Il va avoir tous les yeux qui vont se braquer sur lui. Vous n'avez même plus besoin de le réprimander. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin de passer à la deuxième étape de la réprimande. Parce qu'il se sentira tout seul, il s'est exclu tout seul, c'est plus le groupe qui l'a exclu, il s'est exclu tout seul. Pourquoi il s'est exclu tout seul? Parce que tout le monde s'est mis d'accord que les gros mots dans cette salle n'ont pas lieu d'être. Et on est tous d'accord dessus. Il suffit qu'après, il y a des gens qui disent oui, mais les gros mots, c'est quoi, à quel niveau et tout. Et là, on rentre dans des choses très complexes, ce qui arrive souvent dans la compréhension. On arrive dans des situations très complexes où, justement, on commence à reculer, à avancer, à déplacer à droite et à gauche et tout. Et au bout d'un moment, c'est devenu tellement flou dans tous les sens que, ouais, bon, est-ce que c'était vraiment un gros mot? Est-ce que ça n'a pas dépassé sa pensée? Est-ce que c'est vraiment important? Ouais, mais bon, on va. Vous voyez, on rentre dans des marchandages, ça n'a plus de sens. Alors, pour essayer de comprendre ça, il faut comprendre la conception. Quand on parle de compréhension dans l'être humain, qu'est-ce qu'on entend? Et quels sont ses niveaux surtout? Et en règle générale, si vous étudiez la sociologie, les livres de sociologie qui existent, il existe trois niveaux de compréhension. Le niveau enfantin, c'est-à-dire d'un enfant dont le cerveau n'est pas encore construit. Le niveau, je dirais, commun. Et le niveau de l'expert. Moi, j'en rajoute un quatrième niveau qui va être le niveau juridique, shara'i, c'est-à-dire la compréhension par rapport à une loi qu'on s'est donnée soi-même. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Le premier niveau est le niveau enfantin, c'est-à-dire d'un enfant. Alors, l'exemple va être simple à comprendre. Vous dites à un enfant de 3 ou 4 ans, va te laver les mains. Il va ouvrir le robinet, il va jouer pendant un quart d'heure avec l'eau, il va revenir, il va être complètement mouillé. Il a peut-être les mains mouillées, mais est-ce qu'il s'est lavé les mains? Il a compris ce que vous voulez. Parce que quand vous avez dit, va te laver les mains, si vous dites à un enfant de 2 ans, va te laver les mains, il ne sait pas de quoi vous parlez. Mais quand vous lui dites à 2 ans et demi, 3 ans, il sait. Mais la reproduction, enfin l'exécution de l'ordre va être tout à fait personnelle. Donc il va revenir, il a compris. Vous passez un stade au-dessus, un an plus tard, il va plus se mouiller autant. Mais est-ce qu'il a obtenu le fait de se laver les mains? C'est pas évident. Donc vous avez une compréhension qui est, je dirais, limitée par le fait que sa compréhension à lui, elle ne réside pas dans un acte, mais dans un ensemble de choses. Il différencie entre le fait, il fait une différence en fait pour lui, entre lui, le robinet, l'eau et l'ordre que vous lui avez donné. Et des fois ça se mélange dans sa tête. Il va ouvrir le robinet, il va essayer de le régler parce qu'il y a beaucoup d'eau, après il va l'arrêter en croyant qu'il s'est lavé les mains. Enfin, il y a plusieurs étapes. Donc ça réside en fait au fait qu'il ne fait pas une unité de l'ordre que vous lui avez donné. Ça c'est le premier niveau. Et il y a plusieurs niveaux à l'intérieur, il y en a toujours énormément. Mais je résume à peu près. Après, on passe au deuxième niveau de la compréhension, que j'appellerais le niveau commun. Commun, c'est-à-dire qui est à toute personne possédant un cerveau. Quand vous dites à un enfant, va te laver les mains, ou à n'importe quel individu, il va se laver les mains et tout. Maintenant, votre enfant a de l'encre sur les mains, il doit laver les mains, il va laver avec du savon, il revient, il y a encore de l'encre, tu dis, tu n'étais pas lavé les mains. Pour lui, c'est laver les mains. Le fait d'enlever l'encre, c'est autre chose. C'est-à-dire que il y a l'acte, il y a la raison de l'acte et le but de l'acte. Dans le commun des gens, l'acte, la raison de l'acte et le but sont trois choses différentes qui ne sont pas forcément qu'on ne comprenons pas toujours de la même manière. Quand un enfant vous lui dit va te laver les mains, dans le but d'enlever l'encre ou la graisse ou ce qu'il a mis de sale dans la main, s'il ne comprend pas que le but c'est d'enlever ça, il va juste se laver les mains avec du savon. En plus, il s'est lavé les mains avec du savon, il les a rincées. Pour lui, les mains sont devenues propres, il a exécuté. Mais il n'a pas vu le but de se laver les mains. Donc pour lui, il a exécuté, mais il a exécuté à un autre niveau. Et le niveau qui est supérieur, c'est celui qui va faire l'acte dans un but bien précis, qu'il soit bon ou mauvais. Donc vous lui dites, va te laver les mains, il va comprendre que c'est enlever la graisse. Donc même s'il doit le laver 10, 15, 20 fois, il va avoir un objectif bien précis dans le fait de se laver les mains. Vous imaginez bien que vous ne vous lavez pas la main de la même manière quand vous allez manger, quand vous allez terminer de manger ou quand vous allez faire une opération chirurgicale. le niveau de saleté n'est pas le même. C'est pas du perceptible. C'est une, on a bien un but bien précis quand on se lave les mains. Donc là, on parle que de l'objectif. On parle pas de l'acte. L'acte n'a pas, c'est un support. C'est pas le but en lui-même. Et le dernier niveau, le quatrième niveau, qu'est-ce que j'appelle le niveau juridique, c'est que il y a un but, donc il y a un acte, un but, mais il y a un ordre. Et la compréhension juridique, c'est l'ordre est évidemment divin parce qu'il vient de Dieu. Quand Dieu me dit de faire quelque chose, quel est son objectif à lui? Parce que moi, je dois obéir à lui, donc je veux savoir ce qu'il veut de moi. Donc je dois exécuter de la manière, quand on dit par exemple, on parle des ablutions, on dit qu'il faut se laver les mains, un truc, mais que me demande Dieu dans le fait de demander de faire les ablutions ou de faire la prière? Qu'est-ce qu'il me demande? Et si je veux être un bon serviteur du Seigneur, je dois répondre de la manière dont lui s'attend, pas de la manière dont moi je veux le faire. Vous voyez la différence qu'on ne retrouve pas dans le troisième point, parce que le troisième point, c'est la finalité. La finalité de la prière, c'est de faire la prière, et de la manière dont on nous l'a enseigné, de la bonne manière. Mais, même si je l'exécute du mieux que je peux, qu'attend Dieu de moi dans le fait de faire la prière? C'est ça qui est le but, qui est un niveau supérieur. Donc on résume, un, le niveau enfantin, c'est-à-dire la compréhension simple, deux, le niveau commun, mais aussi qu'on peut appeler linguistique, c'est-à-dire de la compréhension du mot de la langue. Quand on dit laver, qu'est-ce que tout le monde entend par laver? Ça, c'est le mot commun. Et le troisième, le niveau un peu plus, je dirais, de spécialiste, mais qu'on peut aussi appeler raisonner, c'est-à-dire on a utilisé la raison pour y arriver, on s'est fixé des buts, un but, un chemin, un truc comme ça, et le troisième qu'on appelle juridique ou en relation avec le divin. Donc on a les quatre niveaux. Alors pourquoi on parle de ça? Pour parler de sciences religieuses et pour parler de Dieu, c'est que nous utilisons toujours ces principes-là pour identifier tout, qu'on le fasse exprès ou qu'on le fasse pas exprès. Mais on fait tout notre raisonnement, tout notre comportement réside dans cette manière de comprendre. Et toutes nos relations avec les individus passent par ce cheminement-là, de cette relation de compréhension. Quand vous pratiquez une religion ou un sport, il n'y a pas de différence, hein, je vous dis, ça s'applique à tous les niveaux. Quand vous pratiquez une religion ou un sport, vous avez celui qui va tout simplement comme ça, c'est l'enfant. Il va imiter, je veux dire, celui qui suit les autres. S'ils font, ils font, il fait, s'ils font pas, il fait pas. Donc c'est le niveau enfantin. Après, vous avez le niveau de celui qui, quand même, il dit, ça a un sens. Je joue au foot, ça a un sens. C'est pas, on prend, que ce soit une balle, ou que ce soit un carton, ou que ce soit une balle de baseball, on peut toujours jouer avec au foot. Non, ça a un sens, il y a des règles. Ben, il faut avoir une tenue, il faut avoir des chaussures adaptées. Pareil, il faut faire les ablutions avant, il faut faire la prière, il faut être concentré. Ça, c'est la compréhension linguistique du terme, faire la prière, jouer au football. Et puis, celui qui est au-dessus, qui se dit, mais attendez, c'est un but. C'est pas seulement un jeu. C'est sûr que c'est un jeu, le foot. Mais c'est un but. Le but, c'est quand même un groupe, c'est de gagner. On joue pas au foot pour perdre. C'est faire la prière, c'est pour s'améliorer, pour retrouver la paix en soi, pour résoudre ses problèmes, et des trucs comme ça. Donc vous voyez, on peut retrouver toutes les étapes. Et après, celui, il dit, mais qu'est-ce qu'on attend de moi? Je fais partie d'une équipe, ils m'ont mis dans tel poste, qu'est-ce qu'ils attendent que je fasse? Vous voyez? Et là, Dieu me demande de faire la prière, dans quel but? Est-ce que... Si au lieu de passer 5 minutes à lever les mains, à descendre ou à rester assis, un truc, je me mettais une heure à réfléchir à Dieu ou à répéter son nom, est-ce que ce serait pas mieux? Hein? C'est pas mieux. C'est peut-être mieux. Je passe plus de temps, je me consacre plus à lui. Mais est-ce que c'est ce qu'il veut de moi? Vous voyez les niveaux? Alors, quand on arrive après à l'exécution, je parle d'exécution, c'est-à-dire quand vous volontairement, vous-même, parle pas d'agents extérieurs. Quand vous-même, vous vous mettez dans une voie, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui joue au foot. Même ceux qui adorent le foot ne sont pas forcément des joueurs. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'inscrire dans un club, ils ne vont pas jouer avec les copains le samedi dimanche et tout. Mais il y en a qui s'engagent dans ce chemin-là. C'est pareil pour la prière. Dès que vous vous engagez, là, c'est vous-même qui vous êtes porté sur ce chemin-là. Et quand vous vous portez sur ce chemin-là, il faut que vous ayez, je dirais, un manuel d'utilisation. C'est-à-dire que vous adoptez vous-même un manuel d'utilisation à votre niveau, mais dans un seul but, c'est que le manuel que vous utilisez, il vous corresponde à vous. C'est-à-dire, si vous vous imposez des choses que vous n'êtes pas capable de faire, ou que vous ne pouvez pas tenir à la distance, vous n'y arriverez jamais. Ça, vous le savez tous, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. C'est que si on s'impose des choses qu'on n'est pas capable de suivre à long terme, on finit tous par lâcher. Alors, comment arriver à utiliser, à instaurer un manuel, une conduite ou un concept en se basant sur ses capacités? Tout simplement, c'est la même chose quand vous avez une maladie que vous arrivez chez le médecin. Il y a des maladies qui sont visibles. Il éternue, il a le nez qui coule et tout. Est-ce qu'il a, une entorse du genou? Non, c'est pas une entorse du genou. C'est l'entorse du genou, c'est pas les caractéristiques d'une entorse du genou d'avoir le nez qui coule. D'accord? Donc, elle a une symptomatique. Maintenant, vous avez une maladie que le médecin ne comprend pas. Que vous ne comprenez pas, qui n'est pas invisible, qui n'est pas, et que vous créez un truc. Qu'est-ce qu'on fait? Des analyses. Alors, ça passe de l'analyse du sang au scanner, l'IRM, je ne sais pas quoi, on a toute une batterie. C'est ce que vous devez faire sur vous-même. Vous devez vous analyser au microscope pour savoir comment vous êtes, ce qui vous constitue, ce qui vous pousse dans un sens et qui vous empêche d'aller dans l'autre sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être facile pour moi à faire et qu'est-ce qui va être difficile? Et qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir ce qui est facile. Parce que ce qui est facile, c'est ce qui entraîne. Et ce qui est difficile, c'est toujours ce qui va me retenir vers le sol. On dit toujours que dans la construction de l'être humain, et ça c'est à peu près toutes les religions. Quand je dis toutes les religions, c'est pas seulement les religions monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme, mais le bouddhisme, le brahmanisme, le chamanisme et tout, que l'homme est constitué de deux éléments, une qui est du solide et une qui est de l'éther. Alors on peut l'appeler différemment, on peut l'appeler le corps et l'âme, on peut l'appeler la matière et l'esprit, on peut appeler le truc, mais il y a toujours une partie solide, une partie qui est indéfinissable, invisible, qui constitue ce qui anime la partie mécanique. Eh bien, la partie, je dirais corps, va toujours vous tirer vers le bas, vous vous immobilisez au sol, et l'âme va toujours tendance à vous élever au ciel. Le problème, il ne faut pas qu'ils agissent l'un contre l'autre, parce que quand ils agissent l'un contre l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se séparer. C'est pas forcément la mort, mais ça peut être la mort de l'individu. C'est-à-dire que sur cette terre, vous avez des gens qui sont morts spirituellement. Pourquoi? Parce que le corps et l'esprit sont deux entités totalement différentes chez eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ces deux entités-là sont différentes pour lui. Ou certains rejettent l'histoire de l'âme, de la spiritualité, du concept, des trucs comme ça, ou le placent à un niveau qui n'est pas le sien. C'est-à-dire, vous savez, l'âme, c'est un concept arriéré, c'est plutôt le raisonnement humain, c'est la philosophie, c'est le concept de la vie. Mais est-ce que le concept de la vie, est-ce qu'une théorie philosophique fait agir la matière? Je ne suis pas sûr. Je ne dis pas que c'est non, je ne dis pas que c'est oui. Moi, je n'ai jamais eu une preuve que la philosophie, enfin, que les concepts humains font bouger le corps humain. Et même la médecine, maintenant, elle revient sur ce concept-là. C'est-à-dire que y a ce qui fait bouger le corps humain est encore quelque chose que nous, probablement, nous ne comprendrons jamais. Mais, dont on n'a pas besoin de démonstration, on n'a pas besoin d'intelligence pour la sentir à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, que vous voyez que la vie existe dans un tout petit bébé, dans un petit, un très bon joueur de football, dans un artiste, dans un, une personne de 65 ans handicapée qui a le niveau mental d'un enfant de 2 mois. Vous voyez bien que c'est la même chose qui l'anime. Mais est-ce qu'il l'anime au même niveau? Non. Il l'anime au même niveau. Mais c'est le, nous, nous ne percevons que le résultat, en fait. Nous voyons le résultat du médicament que nous prenons en ne voyant pas la maladie disparaître. Quand vous prenez un cachet d'aspirine, pour vous, vous êtes guéri quand votre nez arrête de couler. Est-ce que la maladie a disparu? Vous ne le savez pas. Vous ne voyez que le résultat. C'est le résultat de l'effet du médicament. Eh bien, c'est pareil pour la spiritualité. Nous voyons le résultat de l'action de l'âme sur le corps, mais non pas ce qui l'a fait bouger. Et c'est ça, tout réside dans cette combinaison, en fait, là. C'est quand vous sentez les choses bouger et quand vous sentez que les choses ne bougent pas. Et ça, on en a fait tous plus ou moins l'expérience. Je parle pour les musulmans, je viendrai après pour les chrétiens pour donner le même exemple. Pour ce, vous savez que, par exemple, la prière ou la lecture ou entendre le Coran, c'est généralement pour un musulman quelque chose de bon. On est apaisé, même si on ne le lit pas soi-même, mais quand on entend. En fait. Mais il a un goût particulier à un moment particulier. Quand? Voilà, pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, le Coran, il a un goût qui est, vous ne pouvez pas le trouver le reste de l'année. Je pense que tous les musulmans sont, le savent, ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que pendant le, même ceux qui vont pas à la prière, pendant le Ramadan, ils viennent à Tarawih. Ils viennent à la prière de fin de journée, qui est une prière surrogatoire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout obligatoire. C'est des gens qui, généralement, ils font jamais la prière dans l'année, mais qui s'obligent pendant le Ramadan, tous les soirs, pendant 1 heure, voire 1 heure et demie, voire 2 heures, selon la lecture de celui qu'ils suivent, à rester debout, à suivre une prière. Parce qu'ils trouvent un plaisir à écouter le Coran à ce moment-là qu'ils ne trouvent pas le reste de l'année. Alors qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est le Coran qui a changé? Non. Le Coran est toujours le Coran. Vous lisez au mois de janvier, au mois de décembre, au mois de juin. Mais c'est le goût. Qu'est-ce qui a donné le goût? C'est l'âme. C'est votre pratique de religieuse. C'est vous qui avez donné le goût à la lecture du Coran. C'est pareil pour les chrétiens. C'est-à-dire que certains événements sont pareils, mais ce que vous vivez le jour du 24 décembre, parce que vous avez la certitude que c'est la naissance du Christ, est tout à fait différent. C'est un jour comme les autres, mais il vous donne une teinte, un goût de cette journée-là qui est tout à fait différente.
Surtout la semaine pascale.
Voilà, la semaine pascale.
La semaine pascale, ouais. C'est parce qu'il y a aussi des... presque tous les jours, il y a aussi des petits offices, il y a toute une presse.
Oui, c'est en fait ce que nous apportons de nous-mêmes à notre acte qui va lui donner un goût. Eh bien, ce que je vous propose, c'est trouver les clés, trouver le sel et le poivre que vous avez en vous, que moi j'ai pas, pour assaisonner votre vie tous les jours. Pour qu'elle ait tous les jours un très bon goût qui vous fait, qui vous laisse planer. Je dirais marcher sur des nuages. J'aime bien cette expression-là. Qui vous donne un truc. Je vous le dis, c'est des choses que vous avez à l'intérieur de vous. Je ne vais pas vous l'apporter. J'ai pas de salière et de poivrière avec moi dans mon sac. C'est seulement aller fouiller dans les recoins de notre conscient et de notre inconscient et peut-être les uns avec les autres vous donner ce goût de retrouver comment assaisonner et dans quelle proportion et comment le faire, parce que ça c'est pour vous, mais si vous avez des enfants, ça devient une obligation pour vous de le faire. Il faut que vous trouviez ça. Vous ne pouvez pas obliger vos enfants à aimer Dieu, vous pouvez que les faire aimer Dieu, et ça je peux vous assurer que c'est pas une mince affaire. Nous le verrons dans le cours suivant. C'est pas une mince affaire parce que c'est plus de problématiques que de solutions. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفور رحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Donc, c'est la fin du premier cours. Donc, j'attends les questions. Si vous avez des questions concernant ce qu'on vient de voir.